Ce matin, donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 10 pour la suite de notre série démarrée dimanche dernier sur le divorce et le remariage selon Jésus. Alors peut-être que vous entendez, ma voix elle n'est pas tout à fait normale parce que j'ai un peu la crève, donc je ne vais pas parler fort, donc si vous voulez m'entendre, il faudra mettre du volume, Simon, d'accord ? Donc le divorce et le remariage selon Jésus, la deuxième partie, et j'aimerais lire Marc 10, chapitre 10, les versets 1 à 12. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Et il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Donc ce que j'ai décidé de faire ce matin pour nous aider dans la suite de ce texte, c'est de faire quelques points, vous me connaissez bien pour les points, et on va faire une sorte de révision pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, et même si vous étiez là pour nous replonger dans le bain, et ensuite je continuerai tout simplement dans le texte d'aujourd'hui, d'accord ? Donc quelques points. Premièrement, le texte, ou bien encore mieux, je réfléchissais tout à l'heure, je préfère la question. Numéro 1, la question. Le texte ou la question. Dans le verset 2, il est dit, « Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier ou divorcer sa femme. » Donc ça, c'était la question de base qu'on a posée à Jésus. Et le verset, chapitre Matthieu 19, 3 ajoute « pour un motif quelconque ». Est-ce qu'on peut divorcer pour un motif quelconque ? On y reviendra. 2. Les deux écoles. Donc en guise de révision, à l'époque de Jésus, deux écoles existaient, celle du rabbin conservateur Shammai, qui lui enseignait que le divorce était possible uniquement pour des raisons très graves. Il y avait une autre école libérale du rabbin Hillel qui lui préconisait le divorce pour quelque raison qu'il soit. On a vu un exemple. Si une femme mettait trop de sel sur ton souper, par exemple, lui disait, bah, tu peux la divorcer pour ça, pour n'importe quelle raison. 3. Le texte de Deutéronome 24. Le cœur du débat venait d'une interprétation divergente de Deutéronome 24, 1 à 4, ce qu'on a examiné la semaine dernière. Et le but de ce passage n'était pas d'autoriser les divorces pour n'importe quel prétexte, mais de souligner l'intention originelle de Dieu de promouvoir le mariage et d'interdire les mariages entre personnes adultères. Le texte affirme, par un cas hypothétique, que si un homme divorce de sa femme pour une raison autre que l'adultère, qu'un remariage par l'un ou l'autre égalerait l'adultère. On y reviendra aussi. 4. 4. La concession du divorce. Dans Marc 10, 4 et 5, ils disent ceci, les pharisiens disent, Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Donc là, ils citent ou ils se réfèrent à Deutéronome 24. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Donc ici, Jésus affirme bien que, à un moment donné dans l'histoire d'Israël, Moïse, sous la conduite de Dieu, a permis le divorce dans le cas de l'adultère. Cela voulait dire que le divorce était dorénavant autorisé au lieu de la peine de mort prescrite dans Deutéronome 22-22. Donc il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Alors, pourquoi cette concession? Pourquoi est-ce que Dieu a substitué le divorce dans le cas d'adultère au lieu de la peine de mort? Eh bien, tout simplement à cause de sa grâce, la grâce offerte au conjoint adultère. On a vu dans Deutéronome 22-22 quelle était la conséquence de l'adultère. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. La concession, c'est qu'au lieu de punir l'adultère de mort, sa vie est en fait épargnée. Alors, il y a de nombreux exemples de cela dans la Bible. Par exemple, David, le roi David. Il a bien commis l'adultère avec Bathsheba, dans 2 Samuel 11. A-t-il été exécuté pour son acte? Non. Il aurait dû, selon la loi. Mais il n'a pas été. Pourquoi? La grâce de Dieu. Salomon, son fils, a commis l'adultère avec au moins 1000 femmes, selon 1 roi 11-13. 300 concubines et 700 femmes. A-t-il été exécuté? Pour ses actes répétés d'adultère, non. Pourquoi pas? La grâce de Dieu. Et que dire de Séchem et Rouben et Judas et Samson et Amnon et les fils d'Élie et combien d'autres? Ont-ils été exécutés pour l'adultère? Non. Pourquoi? Grâce de Dieu. La grâce de Dieu. 5. La permanence du mariage. C'est encore en guise de révision tout ça, De là, nous sommes revenus à Marc 10, où Jésus remet la discussion du divorce à sa juste place dans le contexte de la permanence du mariage. Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour un motif quelconque, pour n'importe quelle raison? La réponse, non. Non. Et il leur rappelle l'intention de Dieu. Qu'au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, il n'y avait qu'une option, l'indissolubilité. Pour quatre raisons. Il les donne au verset 6, un homme pour une femme, il n'y avait pas des pièces de rechange, d'accord. Une union indéchirable au verset 7. Puisqu'ils étaient rattachés l'un à l'autre par l'alliance du mariage, par cette promesse. Une seule chair, verset 8, c'est ce que Jésus dit dans Marc 10. Ce qui veut dire qu'aux yeux de Dieu, ils ne sont plus considérés deux, mais un. Et au verset 9, regardez, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est une œuvre de Dieu, un mariage, c'est une œuvre de Dieu, un miracle de Dieu. Même un mariage entre deux non-croyants. Conclusion. Au lieu de chercher un moyen de sortir d'un mariage aigri par le temps, reconsidère quelle était l'intention de Dieu pour le mariage, fidélité et indissolubilité. 6. On a terminé la semaine dernière en regardant l'exemple d'Osée. Vous vous rappelez? Un exemple bouleversant, celui du prophète Osée, dont la femme était prostituée. Et si quelqu'un avait tous les droits bibliques pour divorcer sa femme, c'était bien lui, Osée. Mais en reconsidérant ou réfléchissant sur l'alliance entre lui et son épouse, ainsi que les directives précises de Dieu à son égard, Osée décide, au lieu de divorcer de sa femme, de reconquérir sa femme et de l'éloigner de ses multiples amants. Et au chapitre 3, le point le plus bas du récit, Osée retrouve son épouse sur un bloc d'esclavage, prête à être vendue en tant qu'objet sexuel au prochain acheteur. Que fait-il? Il achète sa propre femme, non pour la gronder, il la ramène à la maison et lui redéclare son amour. il lui redéclare ses sentiments pour elle, comme quoi il est prêt à tout oublier, on recommence à zéro. Incroyable, j'ai des frissons juste à y penser. Ça, c'est l'amour agapé, mes amis. Et ça, mes amis, c'est le cœur de Dieu sur tout ce débat sur le divorce. Et le remariage. Le mariage est une alliance pour la vie. Malachie 2,16 le dit clairement. Dieu est le divorce. Il est la répudiation. Malachie 2,16. Donc, le but, surtout pour un chrétien rempli de l'esprit, ce n'est pas de chercher un moyen de sortir de son mariage qui est peut-être aigri, et ça, ça peut arriver malheureusement. Non, au contraire, il va chercher tous les moyens pour rester dans son mariage et reconquérir son conjoint. Et ceci nous amène à notre texte d'aujourd'hui. Marc 10, 10 à 12. On s'est arrêté au verset 9 la semaine dernière. Verset 10, lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent là-dessus. Ils leur disent, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard, et si une femme quitte son mari et en épouse une autre, elle commet un adultère. » Donc ça, c'est mon septième point. Oui. Les cas d'exception. Les cas d'exception. Donc on est au verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Donc la discussion que Jésus vient d'avoir avec les pharisiens suscite une question chez les disciples. Donc ils rentrent dans cette maison, on ne sait pas de quelle maison il s'agit. Mais bref, ils leur posent des questions. Les disciples posent des questions à Jésus. Et là, on arrive au cœur du débat, en fait. Puisque Dieu autorise le divorce dans certains cas, c'est ce que Jésus affirme, verset 5. Jésus leur a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Et verset 4, de divorce. Donc il affirme qu'à un moment donné, une lettre de divorce a été autorisée par Moïse. Ok. Si on peut apparemment divorcer, voici la question, dans quel cas précisément? Ça c'est la question. Alors je vais vous donner la réponse puisque je viens de poser la question, d'accord? Je ne veux pas vous abandonner. Alors il y a combien de cas dans la Bible où le divorce et impliquer le remariage est autorisé? Mais vous allez comprendre, d'accord? Quatre. Les Écritures décrivent quatre cas. Alors, il faut savoir que les chrétiens ne sont pas tous 100% d'accord sur ces choses, d'accord? Mais moi, je vais vous donner ma perspective, d'accord? Les Écritures décrivent quatre cas où le divorce et le remariage sont autorisés par Dieu, bien que le dernier cas n'est pas vraiment un cas de divorce, vous allez le voir, d'accord? Mais un cas de remariage. Alors, on va les prendre un à la fois et j'espère que tout va s'éclaircir. Numéro 1. Le premier cas où le divorce et le remariage sont autorisés, c'est l'adultère. L'adultère. Jésus dit au verset 11, il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard, et si une femme quitte son mari et épouse un autre, elle commet un adultère. » Alors pour mieux comprendre, allez avec moi à Matthieu 19 et le verset 9. Matthieu 19 et le verset 9. Où quelque chose est ajouté dans la même phrase. Dans Matthieu 19, 9, passage parallèle, il a dit ceci. Jésus dit, je vous le dis, mais je vous dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, Marc omet les mots « sauf pour infidélité ». Tout est pareil, sauf que Matthieu rajoute « sauf pour infidélité » à l'intérieur du texte. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui répudie ou divorce sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Jésus affirme que si un homme divorce de sa femme pour une cause autre que l'adultère, et qu'il épouse une autre femme, cette nouvelle union devient une union d'adultère. Je vous donne un exemple. Un mari n'aime plus sa femme. Elle n'a pas commis l'adultère. Mais il ne l'aime plus et veut s'en séparer. Alors il divorce d'elle. Notez bien, il n'y a pas eu adultère, mais ils sont maintenant divorcés légalement sans qu'il y ait eu adultère sexuel. Si l'homme, maintenant, se remarie avec une autre femme, alors le moment où il y a relation sexuelle entre lui et sa nouvelle femme, ils deviennent tous deux adultères. Lui et sa nouvelle femme. Pareil pour la femme qui l'a divorcée, puisqu'il n'y a pas adultère, le jour où elle réépouse quelqu'un et a des relations sexuelles avec lui, à ce moment-là, elle devient adultère et lui aussi. C'est exactement ce que dit Jésus. Mais je vous le dis que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Alors il y a une exception à cette règle, l'infidélité. D'où la phrase d'exception que nous trouvons dans Matthieu 19:9. Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Ça, c'est l'exception. Donc, si tu répudies ta femme, mais il n'y a pas eu infidélité, et que tu en épouses une autre, tu commets un adultère. Mais s'il y a eu infidélité, ça change la donne. Le mot grec pour infidélité, pornéa, c'est un mot duquel nous dérivons pornographie, d'accord ? C'est un mot général qui décrit le péché sexuel, incluant le péché d'adultère, d'homosexualité, bestialité, inceste, enfin, toute aberration sexuelle hors mariage. Donc je résume. Lorsqu'un des conjoints commet un adultère, le divorce est autorisé. Le conjoint innocent, donc celui qui n'a pas commis d'adultère, a le droit de divorcer et de se remarier, basé sur le fait que la concession du divorce épargne la vie de l'adultère. Dans l'Ancien Testament, celui qui commet l'adultère devrait être mort, faisant de son conjoint innocent un veuf. Et les veufs pouvaient se remarier. Il y a un exemple assez frappant dans Jérémie de cela, Jérémie 3, Dieu lui-même. C'est assez surprenant, surtout dans ce contexte, parce qu'on n'y pense pas vraiment souvent. Dans Jérémie 3, c'est Dieu lui-même qui divorce. Jérémie 3, verset 6, l'Éternel me dit au temps du roi Josias, « As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. » Donc Dieu dit, regarde, Israël est adultère, elle n'est pas revenue. Verset 8, « Quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce. » Attendez, c'est quand même surprenant. Dieu dit, « Je divorce Israël et je lui ai donné une lettre de divorce. » Tac. Donc apparemment, c'est légitime si Dieu l'a fait. J'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement par sa crainte, débauche, etc. Depuis, Dieu l'attend pour qu'elle revienne. La Bible nous dit qu'elle reviendra, mais pas avant la fin des temps. Tout ça pour dire, un exemple pour montrer que Dieu divorce Israël à cause de l'adultère. Oui, Dieu divorce. Alors, il faut noter la grande patience de Dieu. Il a attendu 700 ans avant de divorcer Israël. Il attend des milliers d'années pour qu'elle revienne. Grande patience de Dieu. C'est intéressant, dans Matthieu 1, 18 à 19, dans le cas de Joseph et Marie, vous rappelez, ils étaient fiancés. Elle tombe enceinte. Joseph, en fait, est honoré dans la Bible pour le fait qu'il voulait divorcer de Marie secrètement à cause de l'adultère qu'il croyait qu'elle avait commis. Bon, c'était une évidence dans le sens qu'elle était enceinte. Donc là, son divorce aurait été légitime. C'est intéressant, à l'époque, que les périodes de fiançailles étaient tout aussi liantes que le mariage lui-même et exigeaient un divorce officiel pour le dissoudre. Donc qu'est-ce qu'on conclut ici? Que Jésus interdit tout divorce pour des raisons autres que l'adultère. Pourquoi? Parce qu'un divorce autre que l'adultère produit l'adultère dans un remariage. Dans le cas où il y a adultère dans d'un des conjoints, et j'ai envie d'ajouter un adultère durci, à long terme, avec tout refus de réconciliation, un adultère qui persiste malgré toutes les tentatives de réconciliation, alors le divorce serait toléré et le conjoint innocent aurait le droit de se remarier. Mais attention, attention. Le fait qu'il y ait adultère au sein d'un mariage n'est pas le signal automatique pour demander le divorce immédiat. Non, il faut reculer dans Marc 10 et regarder ce que Jésus disait par rapport à la permanence du mariage. Et il faut réfléchir à l'exemple d'Osée et de réaliser que le conjoint innocent, donc celui qui n'a pas commis l'adultère, devrait avoir un cœur d'amour, voire de pardon vis-à-vis de ce conjoint. Bien sûr, il faut que ce conjoint se repente et revienne. Et ce conjoint innocent va tout faire pour reconquérir ce conjoint adultère. Mais dans le cas d'un durcissement long terme, là il y a une concession qui est donnée. Donc ça c'est le premier cas. Le premier cas c'est l'adultère, je dirais durci. Deuxième cas où le divorce est autorisé, la désertion. Alors écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Lorsqu'un conjoint non-croyant divorce de son époux croyant, le divorce est autorisé. Allez avec moi à 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. À partir du verset 12. Bon, le contexte, c'est la sexualité, le mariage, la débauche, etc. Au verset 12. Paul dit aux autres, « Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère ou une femme non-croyante à une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. » En fait, on peut continuer. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Alors, j'explique. Au verset 12, il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Paul explique tout simplement que Jésus, donc le Seigneur Jésus, n'a pas évoqué ce cas précis dans ce que lui a dit. Donc, c'est Paul qui va le dire, inspiré par le Saint-Esprit. Alors, voici le cas. Voici le cas. Si un frère, donc un frère c'est un chrétien, a une femme non-croyante. Alors, cela ne veut pas dire que un chrétien a épousé une non-chrétienne, parce que la Bible interdit cela dans 2 Corinthiens 6. Non, plutôt, c'est un couple non-croyant, dont un jour s'est converti. Il se convertit à Christ. Donc maintenant, c'est un couple avec un chrétien converti et un non-chrétien. Donc ce mari se trouve avec une femme non-chrétienne, il s'épanouit dans sa foi, commence à envier les autres chrétiens dans son église qui ont une femme chrétienne. Ils se disent, mais c'est génial de voir un couple chrétien, moi c'est compliqué, je suis chrétien, mon conjoint n'est pas chrétien. Donc il se pose la question s'il a le droit de divorcer sa femme non chrétienne pour épouser une chrétienne. Quelque part, on pourrait dire que c'est louable comme idée, humainement parlant. Mais la réponse de Paul est catégorique. Non. Non. Non, si la femme non chrétienne consent à habiter avec le chrétien. Et le verset 13 nous donne le cas opposé. Si une femme a un mari non croyant, donc de nouveau là dans ce cas il y a un couple non chrétien, la femme se convertit, et que lui donc le non croyant consent à habiter avec elle, bah, qu'elle ne répudie point son mari. La clé c'est si le non chrétien consent à habiter avec le chrétien, il ne faut pas le divorcer. Pourquoi pas ? Verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Alors attention, il y a certains qui disent « Ah ben ça veut dire qu'ils sont sauvés alors ». Mais non, parce qu'il dit, regardez verset 14, « Car le mari non-croyant est sanctifié ». Donc il est non-croyant. Alors la sanctification ici ne veut pas dire qu'il est sauvé. Il est sanctifié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le conjoint non-croyant est bénéficiaire des bénédictions qui débordent sur lui de la vie de son conjoint chrétien, qui pourrait à terme le mener à Christ. De même, c'est comme un parent chrétien sur la vie d'un enfant non chrétien. La présence d'un parent chrétien a un effet bénéfique sur les enfants, leur donnant des bénédictions, je dirais, non méritées. C'est le débordement des bénédictions des parents sur les enfants, qui pourraient à terme les mener à Christ. Et ils sont saints dans le sens qu'ils sont bénéficiaires des bénédictions liées aux parents chrétiens. Il y a un exemple intéressant dans Genèse 39. Vous vous rappelez que Joseph se retrouve esclave et ensuite emprisonné dans la maison de Potiphar. Vous vous rappelez ? De manière complètement injuste, on le traite d'adultère et tout ça, c'est faux. Donc il est là dans la prison. Et regardez au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et au verset 5, dès que Potiphar lui établit sur la maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. C'est un très bon exemple. Le fait que Joseph était dans la maison de Potiphar faisait que Dieu bénissait Potiphar à cause de la présence de Joseph. C'est tout. Ben, tel en est-il dans un couple où il y a un chrétien et un non-chrétien. Dieu bénit le chrétien et ça découle sur le non-chrétien. Alors ça c'est l'idéal. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Verset 15, en Corinthiens 7, 15. « Mais si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. » Que se passe-t-il si le non-croyant veut absolument quitter le croyant? Il en a marre. Maintenant, son conjoint est devenu un Jesus fanatique. Il n'aime pas ça. Il veut se débarrasser de cette situation. Que faire? Il veut partir? Laisse-le partir. C'est ce qu'il dit. Laisse-le partir. Tu n'es pas lié dans ce cas-là. Mieux vaut dans ce cas-là la paix qu'une friction malsaine dans le couple. Alors vous dites, ouais, mais si j'accorde le divorce, comment est-ce que mon conjoint non-croyant va se convertir si je ne suis pas là pour l'amener à Christ? Réponse, verset 16. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Peut-être qu'il va rencontrer le Seigneur par le biais de quelqu'un d'autre. Donc, quel est le principe qui ressort ici? Ben, les principes, si tu es marié et que ton conjoint est non-croyant, qu'il consente à habiter avec toi, alors reste marié. Aime ton conjoint. Si tu es marié et que ton conjoint est non-croyant, qu'il veuille divorcer, alors accorde-lui. Mais en aucun cas, écoutez bien, chrétien, parce qu'on a, parfois on est un peu malin, d'accord? En aucun cas le chrétien doit initier le divorce et en aucun cas le chrétien doit provoquer son conjoint non chrétien à vouloir divorcer de lui. Parce qu'il y a des chrétiens qui pourraient être un peu rusés, mais bien sûr pas dans notre église, ça c'est sûr, d'accord? Ils disent, tu sais, dans le fin fond de mon cœur, j'aimerais vraiment larguer mon conjoint non chrétien. Donc, c'est facile, je vais lui rendre la vie impossible. Je vais mettre des versets bibliques partout dans la maison. Je vais lui citer, je vais mettre des bibles ouvertes à droite et à gauche, des chants chrétiens, je vais mettre des messages forts dans toutes les pièces de la maison. Et là, ils vont en avoir marre, il va partir en courant. Et là, je pourrais divorcer, me remarier. Ah bon? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Ah, il faut aller à 1 Pierre 3, tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. 1 Pierre 3 dit ceci. Voilà, il s'adresse à une femme qui a un mari non chrétien, insupportable. Regardez. 1 Pierre 3, un femme, soyez de même soumise à votre mari, afin que, écoutez bien, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Une femme chrétienne a un mari non obéissant, non chrétien. Comment est-ce que tu peux le gagner à Christ? Justement en te taisant. Ne dis rien. Quoi? Non mais, qu'il soit gagné sans parole. Arrête de le bombarder de versets bibliques. Arrête. Arrête les post-it dans la salle de bain avec des versets bibliques. Arrête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Que ta vie soit une lumière pour Jésus-Christ. Et soumets-toi à lui. Aime-le. Et peut-être que ça va le gagner à Christ. Arrête les versets bibliques. C'est ce qu'il dit. Hein, je ne fais que le citer 1 Pierre 3. Pareil pour un homme qui a une femme non chrétienne. Aime-la. Honore-la. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, dernière pensée sur ce point. Si le conjoint non chrétien demande le divorce et que tu lui accordes, moi je recommanderais au conjoint chrétien de ne pas se remarier tant que le conjoint non croyant ne se remarie pas en premier. Ou d'attendre que celui-ci commette l'adultère durci. Pourquoi? Pour laisser la porte ouverte à une conversion et pourquoi pas à une réconciliation ultérieure. Ça serait le top. Imaginez le non chrétien parte, après 1 ou 2 ans il se convertit, et il veut revenir, et vous êtes là à l'attendre. Alors, est-ce que c'est garanti? Non, mais c'est une possibilité. Donc l'idée, c'est de ne pas aller trop vite. Être patient, patient et patient encore. Trois. Ça va? C'est un peu technique tout ça, mais ça va? Vous me suivez? D'accord. Troisième cas où le divorce et le remariage sont autorisés. La conversion. La conversion. Lorsque le divorce a eu lieu avant la conversion. Le salut indique qu'une personne redémarre une nouvelle vie. Cette nouvelle vie est caractérisée par une obéissance croissante vis-à-vis de la volonté de Dieu comme elle est révélée dans la parole de Dieu. Par exemple, dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors quand on vient à Christ, c'est comme si Dieu il passe une éponge sur le passé, on recommence à zéro. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des souvenirs douloureux du passé, des mauvaises habitudes du passé qui peuvent continuer dans la vie chrétienne. Cela ne veut pas dire non plus que les causes sous-jacentes des problèmes maritaux du passé n'existeront plus. Mais cela veut dire que Dieu, par le biais du Saint-Esprit et de sa parole, opère une transformation totale dans la personne qui se convertit à Christ. Dans 1 Corinthiens 7, 20 à 27, dont le contexte est le divorce et le remariage, Paul indique que chaque nouveau chrétien doit, lorsqu'il vient à Christ, reconnaître la providence de Dieu dans sa vie et accepter les circonstances particulières qui sont les siennes comme étant souverainement autorisées par lui. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais dans 1 Corinthiens 7, 20, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. As-tu été appelé en tant qu'esclave? Ne t'inquiète pas, Mais si tu peux devenir libre, profites-en plus tôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur, de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. Ensuite, il rentre dans un débat vis-à-vis des vierges, et ensuite verset 28, vis-à-vis des mariés. Si on est appelé lorsqu'on est marié, alors on ne devrait pas chercher un divorce. Si on est appelé lorsqu'on est divorcé, alors on ne devrait pas, on ne peut pas se réconcilier avec son conjoint parce qu'il est non chrétien ou bien remarié. Alors il y a deux options, on peut rester célibataire ou bien se remarier avec un autre chrétien. Bref, regardez, dans une étude de 1 Corinthiens 7, 8 à 9, c'est peut-être plus clair, il dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il aurait bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, la phrase ici, ceux qui ne sont pas mariés, sont ni des veuves. Alors, donc la question c'est de qui est-ce qu'il se réfère ici? Alors, suivez-moi, d'accord? Il dit, à ceux qui ne sont pas mariés. Alors, ça ne peut pas être des veuves, parce qu'il en parle au verset 8, juste après. Ni des vierge, parce qu'il en parle au verset 34 spécifiquement. Ni des chrétiens divorcés, parce qu'il va en parler à partir du verset 10 à 16. Donc on conclut qu'il se réfère à des gens qui étaient divorcés avant leur conversion. Paul donne deux options à ceux qui ont été divorcés avant leur conversion et lorsqu'ils se convertissent, ou bien de rester célibataires, ou bien de se remarier, sous-entendu, dans le Seigneur. Verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Si le mari meurt, il est libre de se remarier, donc là, dans le cas du veuvage, avec qui il veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, la conclusion est celle-ci. Dans le cas où un non-chrétien divorcé se convertit à Christ et que son conjoint n'est pas remarié, le remariage n'est pas conseillé tant que le conjoint divorcé ne se remarie pas. Parce qu'il y a possibilité que le conjoint se convertisse et revienne au conjoint chrétien. Car la porte est ouverte pour une conversion et une réconciliation. Mais si cette réconciliation est impossible, il y aurait dans ce cas-là la possibilité de remariage. Le dernier cas, alors c'est là où je vous dis, c'est pas tout à fait un divorce, c'est le veuvage. Le veuvage. En Corinthiens 7, 39, dit ceci, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Alors, il n'y a pas de divorce ici, mais je voulais juste être clair sur cette possibilité de remariage. La Bible enseigne que le remariage légitime est possible lorsqu'un conjoint meurt, mais il y a une condition, il faut se remarier dans le Seigneur. Alors, voici les quatre cas où le divorce, remariage est autorisé. Un, adultère. 2, désertion. 3, conversion. 4, veuvage. Alors, tenez-vous bien, allez avec moi à Matthieu 19. C'est le huitième grand point là. L'étonnement des disciples. C'est presque marrant là, regardez. Matthieu 19 et verset 10. Alors, peut-être reculons verset 9 pour vous montrer le contexte. Jésus dit, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc là, les disciples, ils réalisent, waouh, c'est contraignant. Tu peux divorcer que pour adultère, c'est ce que Jésus dit ici. Alors verset 10. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il dit, mais attends, Jésus. Si le mariage est tel que la seule et unique possibilité d'en sortir, donc dans le contexte qu'il est en train de donner ici, c'est l'adultère et rien d'autre. Donc ça veut dire que lorsqu'on se marie, Jésus, c'est vraiment pour toute la vie. Ben oui, parce qu'ils avaient une compréhension assez libérale du divorce. Hein. Ils étaient dans une société comme la nôtre, où on peut divorcer pour n'importe quelle raison. Ah non, Jésus dit, non mais t'es coincé, enfin coincé, tu es marié pour la vie. D'accord. T'es coincé pour la vie, vous m'avez entendu, j'ai dit, d'accord, non, on n'est pas coincé, on est marié pour la vie. Mais pour beaucoup, ils se disent, je suis coincé pour la vie. Et même des chrétiens parfois passent ça. Hein. Vous avez déjà entendu cette phrase ? Un non-mariage est mieux qu'un mauvais mariage. Je répète, écoutez bien les célibataires. Très bien, parce que je sais que parfois, on meurt d'être marié. Mais écoutez bien, un non-mariage est mieux qu'un mauvais mariage, et de loin. Et donc, ils ont parfaitement compris le Seigneur ici. Alors maintenant, Jésus va leur dire qu'il ne faut pas surréagir non plus. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux que cela a été donné. Il dit, attention, n'allez pas trop loin dans votre réaction. Certains vont dire, bah, si c'est comme ça, je reste célibataire, point la ligne. Attends, non. Non, ça c'est un mauvais raisonnement, parce que la norme de Dieu, pour la grande majorité des hommes, n'est pas le célibat. La norme pour Dieu, pour la plupart des gens, c'est le mariage. Au verset 11, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à qui cela a été donné. De quoi parle-t-il ? Tous ne peuvent pas accepter l'idée de rester célibataire. Tous ne comprennent pas les avantages du célibat. Pourquoi ? Parce que le célibat biblique est un don de Dieu qui n'est pas accordé à tous, seulement à ceux à qui cela a été donné. Et à moins que tu aies le don du célibat n'est pas la meilleure chose pour toi. Alors dans le verset 12, Jésus va décrire les trois catégorie possible de célibataires. Car il y a premièrement des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Ici, Jésus dit qu'il y a des célibataires qui le sont pour cause de problèmes congénitaux. Ils sont nés avec une malformation des organes sexuels qui les empêche de se marier. Ils ne peuvent rien y faire, c'est comme ça, ça arrive. Deux, il y en a en qui ils sont devenus par les hommes. Ici, Jésus est décrit les hommes qui sont castrés. Dans l'histoire ancienne, les hommes choisis pour travailler dans les harems, par exemple, étaient castrés afin de leur éviter des compromis sexuels contenus dans l'environnement dans lequel ils travaillaient. Ces gens-là étaient donc des célibataires forcés. Ils étaient condamnés au célibat par les hommes et ne pouvaient donc pas se marier. Ils ne pouvaient rien y faire, c'était aussi comme ça. Troisième catégorie, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Jésus décrit ceux qui ont le don du célibat, encore mentionné dans 1 Corinthiens 7, 7 à 9, où il est dit « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, dit Paul, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'une d'une manière et l'autre de l'autre. » À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il aurait bon de rester comme moi, etc. Donc là, il est en train d'écrire le don du célibat. Mais ça, c'est un don du célibat. C'est un don donné par Dieu à certains, afin qu'ils puissent se consacrer pleinement au royaume de Dieu sans être distraits par le mariage. C'est le don apparemment que Jésus avait et que Paul avait. Du moins, après son premier mariage, on pense que Paul était probablement marié avant qu'il devienne célibataire. Alors regardez verset 12, à la fin du verset 12, on est maintenant dans Matthieu 19, il dit « Que celui qui peut comprendre, comprenne ». La conclusion de Jésus est simple, voici les trois seules possibilités de célibat, à moins que tu ne sois dans une de ces trois catégories, le mariage est la norme pour toi. Bon, il y a quand même une quatrième catégorie de célibataires, ceux qui voudraient être mariés mais qui ne le sont pas encore. Pour certains, ils n'ont tout simplement pas encore eu l'occasion de se marier, mais ils le souhaitent, ce qui était le cas de tout le monde avant qu'on se marie. Alors, non, je recule et je donne la conclusion aussi. Quel est le but de Marc 10 et de Matthieu 19? Simple. Vous êtes prêts? Le mariage est pour la vie. Donc travaille-le. Sois un bon mari, sois une bonne femme. J'ai pas beaucoup aimé cette phrase, non, bonne femme, c'est pas bien. Une bonne épouse, merci, d'accord. Alors on recommence, d'accord? Sois un bon époux et une bonne épouse, c'est beaucoup plus élégant, d'accord? Tout à fait. D'accord? Alors question, est-ce que Dieu a fait une concession de divorce? Oui. Oui, dans le cas d'adultère durci et dans le cas des trois autres cas que j'ai mentionnés dans les Écritures. Notre attitude ne devrait pas être celle de voir comment je peux trouver une astuce biblique pour me sortir de son mariage légitimement. Non. Non, je devrais lire les Écritures et me dire « Waouh, que puis-je faire pour rester dans mon mariage et le cultiver encore mieux pour qu'il aille jusqu'à la mort ?» Ça, c'est le cœur de Dieu. Alors, je termine avec une ou deux petites questions qui sont assez souvent posées sur ce thème. Je pense que vous les comprendrez. Quelques questions pertinentes. Premièrement, n'a-t-on pas le droit de divorcer lorsqu'il y a violence physique au sein d'un mariage ou autre péché grave, mais pas adultère? Ça, c'est une question intéressante. Est-ce qu'on a le droit de divorcer alors pour violence physique? Alors, la violence physique, aussi terrible qu'elle soit, n'est pas une condition biblique pour divorcer. Comme pour l'alcoolisme, les drogues, le vol, une mauvaise gestion de l'argent, la paresse. Il y a quantité de choses qu'un mari ou une femme peut faire pour dégrader la beauté d'un mariage. La violence physique, terrible. Mais ce n'est pas une condition biblique pour le divorce. Cependant, le bon sens nous dit qu'il ne faut pas qu'une femme ni ses enfants s'exposent à la violence d'un tel mari, si c'est le cas de mari, ce qui est la plupart du cas. Dans ce cas-là, il faut momentanément sortir le conjoint du danger de la situation pour une certaine période. Est-ce que c'est quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Je ne sais pas. Peut-être faut-il dénoncer la personne de la police parce que c'est un crime. Ça, oui. Mais puis les encourager à retourner vers leur conjoint une fois que les choses se calment. Vous dites, mais c'est dur. Pensez à oser. Oui, c'est dur. Mais ce n'est pas impossible pour un chrétien. Ce n'est pas impossible. Sachez qu'en France et en Suisse, une telle violence est un crime. Et qui sait si un amour constant et le pardon offert ne pourraient pas à la longue amener ce conjoint fautif à la repentance. Autre question. Que faire si aujourd'hui vous réalisez que vous-même vous êtes dans une situation irrégulière? Écoutez, c'est simple. Repentez-vous et mettez votre vie en règle. Un des drames de notre société actuelle est de voir l'effet du péché à long terme dans la vie des gens. Des divorces multiples, remariages multiples, concubinage, séparation, adultère, inceste, homosexualité, pédophilie, prostitution, viol et que sais-je encore. Puis un jour, la grâce de Dieu éclate dans la vie de cette personne, elle rencontre Jésus-Christ. Elle est pardonnée par le sang de Jésus-Christ. Elle est lavée totalement. Toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Ils viennent au Seigneur avec des vies en désarroi total. Combien j'en ai vu des vies comme ça? Leur vie est comme une omelette. Un mélange incroyable de toutes sortes de péchés. Maintenant, leur cœur brûle pour remettre leur vie en ordre. Ils viennent voir vous, peut-être moi, le pasteur, et posent la question, « Pasteur, que dois-je faire pour mettre ma vie en règle ?» Des fois, il n'y a pas de réponse. Oui, c'est pas vrai, il y en a une. Moi, d'habitude, je vais au psaume 51. Que le roi David a écrit après que lui a été pardonné pour son péché d'adultère et de meurtre. Le psaume 51, 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Moi, la question que je pose et que je veux voir chez les gens, est-ce que tu es vraiment malade par rapport à ton péché? Est-ce que ton cœur est brisé? Est-ce que ton cœur est contrit? Est-ce que tu arrives à regarder en arrière et voir tout le mal que tu as commis avec ton péché? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es malade par rapport à ça? Est-ce que tout ce que tu veux, c'est que Dieu te lave et que tu recommences à zéro? Ça, c'était mon cas. Moi, je vivais une vie de débauche et je me suis converti. Enfin, Dieu m'a converti à l'âge de 19 ans. Et à partir, moi, je me suis effondré. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, restaure-moi, que je sois un homme pur. Et il m'a dit, je recommence à zéro. Et pour toi aussi. Ça, c'est la grâce de Dieu, mes amis. Imaginez tout le mal qu'on a pu faire. Il le pardonne. Ça ne veut pas dire que tout n'est pas réparé, mais il te pardonne. Il te pardonne. Est-ce que c'est ça ton attitude? Seigneur, je me rappelle, quelqu'un dans l'église s'est converti il y a quelques années en arrière, sa vie était vraiment une omelette, il est venu me voir, on s'est assis, il m'a dit, John, écoute, je veux tout refaire à juste. Aide-moi. Je dis, quelle attitude géniale. Il est ici ce matin. Je veux tout remettre à juste. Aide-moi. C'est ça ton attitude. Dieu, il aime le mariage. Il hait le divorce. C'est lui qui a créé le mariage. Genèse 1, verset 26. Voici l'intention de Dieu, avant que le péché soit dans le monde. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'Éternel dit, chapitre 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, et pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable. Alors, écoutez, c'est tellement beau. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma sa chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Elle l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Ça, mes amis, c'est le cœur de Dieu. Et en Christ, on est recatapulté dans le jardin d'Éden et on peut commencer à vivre cette union-là. Ça, c'est le cœur de Dieu. Amen. On va juste terminer le culte en priant. Je pense qu'un sujet comme celui-ci est tellement vaste, tellement d'expériences diverses, d'une personne ou une autre, moi je ne connais pas votre situation précise. Mais je sais que pour beaucoup d'ici, il y a peut-être eu, ou il y a encore peut-être des vies très compliquées. Peut-être que vous êtes clairement dans l'adultère aujourd'hui, c'est possible. Peut-être que vous êtes dans une relation d'adultère, peut-être de débauche, peut-être d'autres problèmes sexuels, peut-être pornographie, internet. Peut-être que vous êtes marié, vous avez un bon mariage, mais derrière, vous vous permettez des choses qui sont tout simplement pas justes, et vous le savez. Peut-être que vous avez un vraiment mauvais mariage. Peut-être que vous êtes marié à un non-chrétien. Ça, c'est compliqué. Vous avez besoin de beaucoup de grâce pour aimer votre conjoint. Peut-être que vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas chrétien. Vous posez des questions. Puis dit, oh, c'est contraignant. Non, c'est libérant. C'est libérant. D'être marié selon le plan de Dieu. Ça, c'est libérant. Peut-être que vous êtes célibataire. Peut-être divorcé. Célibataire, peut-être célibataire. Et vous demandez comment Dieu peut reconstruire votre vie. Honnêtement, j'en sais rien, mais je sais que lui sait. Est-ce que tu as un cœur contrit? Prions. Faites le point dans votre cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, merci et merci encore. Toi, tu as l'amour, mais aussi le pouvoir et la puissance de transformer nos vies, Seigneur, et de nous permettre de redémarrer. Merci. Seigneur, que ton esprit nous creuse, nous sonde. Seigneur, tu vois où on en est chacun, chacune. Tu vois ce qu'on va faire. Seigneur, merci de nous avoir aimés. Et nous t'aimons en retour, Seigneur. Et à toi la gloire. Merci pour la précision de la parole de Dieu aussi. Les choses sont tellement claires. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Au nom de Jésus. Amen.